Vous écoutez, on lit pour vous.
Combattre l'insomnie, une pensée à la fois. Un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans la presse. La surconsommation de somnifères est de plus en plus décriée, mais la détresse des insomniaques est bien réelle. On fait quoi, alors? On travaille sur ses comportements et sur ses pensées. Et ça fonctionne. Mieux que la médication. Incursion au cœur d'une thérapie cognitivo-comportementale pour traiter l'insomnie et exploration de la psyché des insomniaques. J'ai perdu la recette pour dormir. Je voyais mon conjoint qui dormait et je me disais « Maudit qu'il est chanceux, lui. Comment ça se fait que moi, je ne dors pas? » L'insomnie est arrivée dans la vie de Daniel Gélina en même temps que la maternité il y a 44 ans. Assise dans une salle de réunion de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, dans le nord de la ville, l'enseignante à la retraite raconte les pensées qui surgissaient en pleine nuit quand elle voyait les heures défiler sur le cadran. « Ça fait 2 heures que je tourne. Je vais être fatiguée demain. 4 heures du matin. Déjà. » Daniel Gélina en parle au passé, mais ses souvenirs sont récents. Après 3 ans d'attente, elle a obtenu une place ce printemps au sein d'une thérapie de groupe pour réapprendre à mieux dormir. La clinique du sommeil du Centre d'études avancées en médecine du sommeil figure parmi les seuls centres au Canada, sinon le seul, à offrir gratuitement à ses patients la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Il s'agit pourtant du traitement de première ligne contre l'insomnie, bien avant les médicaments comme les benzodiazépines et les hypnotiques en Z, dont la surconsommation est de plus en plus décriée. Les gens qui viennent nous voir nous disent « J'ai perdu la recette pour dormir », résume le neurologue Alex Desautels, directeur de la clinique. On leur redonne une espèce de marche à suivre pour bien dormir. 60 % à 80 % source insomnia, The Lancet 2022. Pourcentage des personnes pour qui la thérapie a un effet thérapeutique. Environ 70 % des patients maintiennent leur gain clinique après 2 ans et 50 % après 10 ans. Parmi les patients qui répondent, la moitié sont en rémission complète. Daniel Gélina sort l'agenda de sommeil qu'elle a tenu tout au long de la thérapie qui prend fin aujourd'hui. Chaque semaine, j'ai gagné en moyenne 20 à 30 minutes de sommeil par nuit, calcule-t-elle. Elle dort près de 7 heures par nuit maintenant. Et elle est super emballée. Milly Alary, qui souffre de fibromyalgie, fondait peu d'espoir dans la thérapie au départ. Son problème, ce n'était pas de s'endormir. Elle tombait comme une bûche à 22 heures, mais plutôt de rester endormie. Elle se réveillait vers 1 heure du matin et le cannabis médical lui permettait de rêvasser un peu en fin de nuit. Aujourd'hui, elle se couche à 23 heures et se réveille vers 4 heures, 5 heures. « Pour moi, c'est énorme », dit-elle. Les participants avaient tous des attentes réalistes, souligne Chloé Blanchette-Carrière, doctorante en psychologie clinique, et c'est une bonne chose. Vouloir être un dormeur parfait, ça met trop de pression et c'est illusoire. Tout le monde a de mauvaises nuits, rappelle-t-elle. Conditionnement. Pendant 6 semaines, les 6 participants ont appris à améliorer leur hygiène de sommeil, à dégonfler les pensées anxiogènes, voire obsessionnelles, qui accompagnent souvent l'insomnie et à déconstruire le conditionnement négatif qui s'est forgé au fil des années. L'insomnie est fréquente. Un tiers des gens traversent un épisode transitoire au cours de leur vie, souvent lors de circonstances spéciales, un mariage, un divorce, une promotion, etc. Quand le stress diminue, le sommeil s'améliore. Mais certaines personnes vont développer de mauvaises habitudes qui contribueront à rendre le trouble chronique. Marie-Hélène Penestri, chercheuse en sommeil et professeure à l'Université McGill, a plein d'exemples. Développer une dépendance à la médication, faire de longues siestes, se stimuler sur les écrans la nuit, carburer au café ou relaxer avec l'alcool. Se coucher plus tôt, même si on ne s'endort pas. Se forcer à dormir. 10% pourcentage de la population qui souffre d'insomnie chronique. Vous écoutez « Combattre l'insomnie, une pensée à la fois », un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans La Presse. Les gens finissent par associer le lit à la frustration de ne pas dormir, résume le neurologue Alex Desautels. Le système de stress s'active en soirée et culmine à l'heure du coucher. La pression augmente, les battements cardiaques aussi. Pas idéal pour s'endormir. Paradoxalement, la privation de sommeil est au cœur de la thérapie. Les participants établissent d'abord une fenêtre de 6 heures au cours de laquelle ils ont le droit de dormir la nuit. La dette de sommeil ainsi créée permet de vaincre l'état d'hyperactivité qui prévaut au moment du coucher, explique Alec Desautels. La fenêtre de dodo augmente graduellement pendant la thérapie. Autre consigne primordiale. Retirer l'accès à l'heure dans la chambre à coucher, trop anxiogène, et éviter de tourner trop longtemps dans le lit. Après 20 à 30 minutes, calculées subjectivement, on sort de la chambre et on fait une activité ennuyante jusqu'à ce que la somnolence revienne. Le lit doit être associé au sommeil et au câlin. Point. Les insomniaques doivent aussi prendre conscience des distorsions cognitives qui les habitent. « Ça me prend absolument 8 heures de sommeil. Je vais mal dormir toute la semaine. » Millie Allary, pour sa part, croyait qu'un adulte, ça devait se coucher à 22 heures, pas plus tard. Apprivoiser les pensées. On fait quoi quand les pensées surviennent? On essaie de les contrôler? Titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil à l'Université Laval, Charles Morin conseille plutôt de les apprivoiser et de les remplacer par des pensées plus réalistes, plus constructives. Il s'agit de prendre un petit peu de recul et de se dire que ça ne sert à rien de paniquer à 2 heures du matin ou encore d'essayer de résoudre un problème, résume-t-il. Pour libérer l'esprit, les participants ont d'ailleurs un exercice d'écriture le soir pour coucher sur le papier les choses à régler. Au moment du coucher, ils font aussi un exercice de relaxation associé au sommeil. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre à dédramatiser. Le sommeil, c'est important, mais il ne faut pas paniquer non plus, résume Marie-Hélène Pénestri. Le psychologue Charles Morin suggère une expérience. Après une mauvaise nuit de sommeil, on passe la journée allongée et on note d'heure en heure son humeur et son niveau d'énergie. Et on refait l'expérience au terme d'une autre mauvaise nuit, mais cette fois en planifiant des activités plaisantes ou énergisantes. À coup sûr, les gens conviennent qu'ils ont mieux fonctionné en restant actifs, constate Charles Morin. Des études ont montré qu'une nuit d'insomnie a peu d'impact sur les fonctions cognitives le lendemain, souligne Alex Desautels, qui ajoute que le cerveau s'adapte et change l'architecture du sommeil le lendemain pour le rendre plus profond. Autre fait apaisant, les insomniaques sous-estiment presque tous le nombre d'heures qu'ils dorment. Le participant Philippe Saint-Germain, qui souffre du syndrome des jambes sans repos, a eu plus de mal à appliquer les consignes et la thérapie a moins bien fonctionné pour lui. Mais il retient une leçon importante. Quand ça va mal, il ne faut pas se décourager, ça ira mieux plus tard, conclut-il. Une prescription spéciale. Des initiatives ont lieu dans le monde médical pour diminuer les prescriptions de somnifères. En janvier, le Collège des médecins a lancé un programme de surveillance de l'exercice pour les opioïdes et les benzodiazépines, Rivotril, Lativan, etc. Ces derniers mois, la campagne « Choisir avec soin » a produit des outils pour les médecins et les patients. Des capsules vidéo et une prescription non pharmacologique, tous deux inspirés de la thérapie cognitivo-comportementale. Plusieurs experts sont d'avis que les somnifères peuvent être bénéfiques en période de stress aigu, sur une base ponctuelle, mais la majorité des patients les consomment de façon prolongée, ce qui comporte des risques de dépendance et d'effets secondaires. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie demeure peu accessible, tant au public qu'au privé. Vous écoutez « Combattre l'insomnie, une pensée à la fois », un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans La Presse. Et si la température trop stable était en cause? Jérôme Siegel est une autorité mondiale en matière de sommeil. Il a mené plus de 300 études dans sa vie et publié dans les plus grands journaux scientifiques. Dans la dernière décennie, l'une de ses études a particulièrement marqué les esprits. Celle portant sur le sommeil des chasseurs-cueilleurs, publiée en 2015 dans Current Biology. Professeur en psychiatrie à l'Université de Californie à Los Angeles, Jérôme Siegel a dirigé une recherche dans trois tribus traditionnelles de Namibie, de Tanzanie et de Bolivie. Des gens, donc, dont le mode de vie se rapproche de celui de nos ancêtres sur le plan évolutif. Le professeur et son équipe ont constaté qu'ils dormaient pas mal comme nous. Ils se couchaient 3 heures après le coucher du soleil et dormaient entre 6 et 8 heures, mais que l'insomnie était pratiquement inexistante. Moins de 2% des chasseurs-cueilleurs en souffraient, contre 10% à 30% des gens vivant dans les sociétés industrielles. Joint en Californie, Jérôme Siegel se remémore une conversation qu'il a eue avec son interprète en Namibie, qui vivait désormais en ville, mais qui venait de la tribu. Je lui ai demandé « Omar, as-tu déjà eu de la difficulté à dormir? » Et il m'avait répondu « Oh, oui. Il y a 3 ou 4 ans, je me suis cassé le bras, je n'avais pas dormi de la nuit, ça me faisait trop mal. » Se souvient Jérôme Siegel, encore amusé par l'anecdote. Le terme insomnie n'existait tout simplement pas dans la langue des sangs en Namibie, ni dans celle des Timan en Bolivie. Bien sûr, le mode de vie occidental diffère de celui des chasseurs-cueilleurs à bien des égards. L'alcool, la cigarette, la sédentarité, la nourriture industrielle, l'obésité, les téléphones intelligents le soir, la solitude, le stress au travail. Le professeur Jérôme Siegel observe toutefois une autre différence, peut-être centrale dans l'équation. La fluctuation de température. Les membres des tribus se réveillaient au lever du soleil, ce qui correspond au retour de la lumière, mais aussi à la période la plus fraîche du cycle de 24 heures. Décalage des signaux. En Californie, souligne Jérôme Siegel, tout est climatisé. Les maisons, les voitures, les lieux de travail, les magasins. La température est stable, toujours. Or, depuis des centaines de milliers d'années, le corps humain évolue en réponse aux variations quotidiennes de température, tant à la chaleur de l'après-midi qu'à la fraîcheur du petit matin. Nous vivons, dit Jérôme Siegel, dans une situation qui n'a jamais existé dans l'évolution humaine en matière de variations de température. Il y a toutes les raisons de croire qu'il y a un décalage avec les signaux pour nous réveiller et nous endormir. Les bébés non plus ne ressentent plus vraiment les fluctuations de température. Quel en sera l'effet? Le professeur Siegel mène une étude pour comparer le sommeil de rongeurs qui grandissent à une température fixe à celui de rongeurs qui grandissent au rythme de la température. Je m'attends à ce qu'ils aient un rythme de sommeil différent à l'âge adulte, précise-t-il. Concrètement, comment appliquer cette théorie, à part faire du camping son mode de vie? Jérôme Siegel conseille aux gens ayant de la difficulté à dormir de réduire la température dans leur chambre à coucher. La température minimale devrait être atteinte à l'heure du réveil, au lever du soleil, dit-il. Et on devrait aussi apprendre à tolérer les chaleurs de 3 heures de l'après-midi. Une perspective évolutive. Quelle est la fonction du sommeil? Le professeur Jérôme Siegel propose une fascinante théorie basée sur l'évolution. Pourquoi l'éléphant d'Afrique, un grand herbivore, dort environ 2 heures par jour, tandis que le lion, un carnivore, en dort 14. Rien à voir avec la grosseur de leur cerveau ou leur capacité cognitive, selon Jérôme Siegel. Ce serait plutôt une affaire d'énergie. Le succès des espèces dépend en outre de l'équilibre entre l'apport en nourriture et la dépense d'énergie, rappelle-t-il. Le nombre d'heures de sommeil dont chaque espèce a besoin serait donc intimement lié à leur niche écologique et à leurs besoins en matière d'alimentation. Être éveillé 24 heures ne serait pas une bonne façon de perpétuer l'espèce. On se reproduirait à un rythme énorme jusqu'à la famine, dit-il. Vous écoutez « Combattre l'insomnie, une pensée à la fois », un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans La Presse. Dans la tête des insomniaques. L'insomnie est un trouble multifactoriel, mais certaines tendances se dégagent. Des chercheurs, dont la sommité mondiale Charles Morin, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil à l'Université Laval, nous aident à comprendre qui sont les insomniaques. Génétique. Il existe des bases génétiques à l'insomnie qui ne sont toutefois pas encore bien identifiées, indique le neurologue et chercheur Alex Desautels. Il y a souvent des histoires familiales d'insomnie, souligne-t-il. Certaines personnes, dit-il, ont plus de difficultés à désengager les structures d'éveil. Le fait d'être une femme augmente aussi le risque de développer de l'insomnie. Probablement que plusieurs gènes ont un effet marginal sur le phénotype de l'insomnie qui sont modulés par l'environnement, estime Alex Desautels. Personnalité. Les insomniaques sont en général moins extravertis que les bons dormeurs. Ils sont aussi plus enclins à ressentir les émotions négatives et souvent plus anxieux et plus perfectionnistes que la moyenne des ours. Une personne qui a une tendance à s'inquiéter beaucoup de tout et de rien dans la vie va amener ces inquiétudes-là au lit, souligne Charles Morin. Émotion. C'est caricatural, poursuit-il, mais je dis souvent que les bons dormeurs disent ce qu'ils ont à dire le jour et dorment le soir, tandis que les insomniaques, il y a beaucoup de « si » et de « j'aurais dû ». Ils ne veulent blesser personne, mais ils ne s'affirment pas toujours comme ils le devraient. Rumination. Tandis que les bons dormeurs pensent à n'importe quoi avant de s'endormir, les insomniaques ont tendance à ressasser leurs inquiétudes. Sur les tracés électroencéphalographiques, les insomniaques présentent plus d'ondes rapides associées à l'activité cérébrale et moins d'ondes lentes associées à la relaxation que les bons dormeurs. Environnement. Le sommeil est très fragile à ce qui se passe dans notre environnement, souligne Marie-Hélène Pénestri, psychologue et chercheuse en sommeil. Il existe des environnements moins propices au sommeil, rappelle Mme Pénestri, qui pense au bruit, à la lumière ou encore à un contexte de violence à la maison. On ne peut pas se laisser aller à s'endormir, dit-elle, quand on est inquiet de notre environnement. Santé. Plusieurs problèmes de santé, physique ou mentale, peuvent contribuer à l'insomnie. La dépression, le trouble panique, la douleur de façon générale, les allergies, les changements hormonaux. L'insomnie peut aussi être révélatrice d'un autre trouble du sommeil comme l'apnée du sommeil. Psychologique ou biologique? L'insomnie est-elle un problème psychologique ou un problème d'ordre médical? S'il y a une problématique qui rejoint un peu les deux composantes, c'est bien l'insomnie, répond Charles Morin. Si on dort mal, notre santé mentale et physique s'en ressent, et quand notre santé est mauvaise, le sommeil, il est souvent affecté. C'était « Combattre l'insomnie, une pensée à la fois », un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans La Presse.
L'éléphant dans la salle de cour. Un texte de Léa Carrier, paru le 4 avril 2024 dans La Presse. Des étudiants sont soupçonnés d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger leurs travaux de session. parfois même à l'insu de leurs coéquipiers. Faute d'outils pour détecter la triche, des professeurs reviennent aux bons vieux examens en classe, avec du papier et un crayon. Des étudiants copient-collent des textes pondus par l'intelligence artificielle dans leurs travaux de session. Devant le risque de plagiat, des professeurs revoient leur méthode d'évaluation, ramenant les examens en classe. Certains s'inquiètent des conséquences à long terme de l'intelligence artificielle en éducation. En près de 20 ans d'enseignement, Marianne Di Croce n'a jamais vu ça. Normalement, j'ai peut-être un cas de plagiat par année. Là, j'en vois chaque session. Laisse tomber l'enseignante en philosophie au cégep de Saint-Jérôme. Depuis un an, les cas de tricherie se sont multipliés dans ces groupes. Le coupable, l'intelligence artificielle générative. L'automne dernier, dit-elle, j'ai donné un petit travail et sur 120 étudiants, je suis convaincue qu'il y en a près de 40 qui ont utilisé un outil d'intelligence artificielle. Madame Di Croce n'est pas la seule. Des travaux qui semblent entièrement pondus par un robot conversationnel, David Joly en a vu à plus d'une reprise dans la dernière année. L'enseignant en physique se souvient d'un cas particulier où un étudiant a remis un travail sur une planète qui n'existe pas, dans un système solaire qui n'existe pas. Ça n'avait pas de sens. Je lui ai demandé d'où il sortait ça et il n'était pas capable de me le dire, soutient celui qui enseigne au cégep de Joliette. Difficile de prouver le plagiat. Déceler le plagiat n'est pas la partie difficile, estiment les enseignants. Ils sautent même parfois aux yeux. Les travaux générés par l'intelligence artificielle répondent rarement aux consignes, inventent ou déforment certains faits et emploient un niveau de langage supérieur à celui de l'étudiant moyen. Ce qui est difficile, c'est de prouver hors de tout doute le méfait. Avec le plagiat traditionnel, on était capable de retrouver la source, explique Marianne Di Croce. Il existe bien des outils en ligne permettant de détecter l'intelligence artificielle comme CopyLeaks, mais aucun n'est fiable à 100%. Le taux d'erreur reste quand même assez élevé, note Nabil Tayeb, cofondateur de la firme montréalaise Draft & Goal, qui a développé un logiciel de ce genre. Chaque semaine, il estime recevoir un, voire souvent deux courriels, d'enseignants cherchant à confirmer leurs soupçons. Pendant les périodes d'examen, c'est encore plus, dit-il. Le retour des examens en classe. Sans outils pour détecter la triche, des enseignants revoient carrément leur méthode d'évaluation. On fait plus d'examens en classe, plus d'examens oraux, énumère Marie-Hélène Parizeau, présidente du syndicat des professeurs de l'Université Laval. Une solution loin d'être idéale, assure-t-elle. Les examens en classe grugent du temps d'enseignement précieux et ils ne remplacent pas les travaux longs, communs dans plusieurs matières dont la rédaction peut s'échelonner sur plusieurs semaines. Est-ce qu'on supprime ce genre d'exercice? Se demande Mme Parizeau. Enseignant en adaptation scolaire, Ismaël Sec a lui aussi réduit le nombre de travaux à faire à la maison. Sinon, comment peut-on savoir que ce sont les élèves qui l'ont fait? Soulève-t-il. Il donne l'exemple de Photomat, une application gratuite utilisée par ses élèves qui peut résoudre une équation mathématique à partir d'une photo. Je pense qu'on a une responsabilité de montrer aux élèves comment être critique par rapport à ces outils, dit-il. Une situation stressante. Les profs ne sont pas les seuls à être dépassés par la situation. Je trouve ça extrêmement stressant, lâche Alice, prénom fictif. Au cours de la dernière année seulement, l'étudiante à l'Université Laval a soupçonné deux camarades de classe d'avoir copié une réponse générée par un robot conversationnel dans un travail d'équipe. La première fois, la partie du travail produite par l'étudiant fautif ne répondait pas aux consignes. On a eu l'idée de poser la même question à ChatGPT et c'était la même réponse, à quelques verbes près, raconte-t-elle. L'étudiant, qui a nié avoir triché, a été exclue de l'équipe avec la permission du professeur. Alice n'est pas contre une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Le problème, selon elle, survient lorsque les étudiants l'utilisent par paresse, ou pire, lorsqu'ils y ont recours à l'insu de leurs coéquipiers. Étudiante en enseignement, Daphné, prénom fictif, raconte avoir elle aussi douté de l'authenticité d'un travail d'un coéquipier. Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'était des phrases compliquées avec plein d'ouvrages cités, et je me disais que c'était impossible qu'il ait lu tout ça, se souvient-elle. Confronté par ses coéquipiers, l'étudiant a tout avoué. Il n'a même pas essayé de le cacher. Il pensait que c'était correct, déplore-t-elle. Je pense qu'on ne mesure pas le changement civilisationnel que l'intelligence artificielle pourrait entraîner, nous dit Marianne Di Croce. En éducation, on se fait beaucoup dire qu'il faut intégrer les technologies, qu'il faut apprendre à vivre avec. Mais cette capacité d'articuler des idées, de réfléchir, de comparer des concepts, si les étudiants utilisent ces outils-là, ils ne l'acquerront pas, poursuit Marianne Di Croce. Un avis partagé par Marie-Hélène Parizeau. Quel genre de formation est-ce qu'on donne aux étudiants s'ils prennent l'habitude d'utiliser un robot conversationnel pour rédiger une partie de leur texte? Comment les établissements s'adaptent-ils à l'arrivée de l'intelligence artificielle? L'Université McGill n'interdit pas le recours à l'intelligence artificielle à condition que celui-ci se fasse en respectant les normes d'intégrité académique et en étant énoncé comme tel. Comme les étudiants, le corps professoral doit être éduqué sur les opportunités et les défis que présentent ces outils. À l'Université du Québec à Montréal, l'utilisation non autorisée de l'intelligence artificielle est considérée comme du plagiat. 7 étudiants ont commis une telle infraction entre septembre 2022 et août 2023. De son côté, l'Université Laval dit ne pas avoir observé de hausse de plagiat liée à l'IA. Nous souhaitons que la communauté étudiante apprenne à utiliser ces nouveaux outils qui font désormais partie de notre réalité en gardant son esprit critique et sa capacité d'analyse, écrit-elle. C'était « L'éléphant dans la salle de cours ». Un texte de Léa Carrier paru le 4 avril 2024 dans la presse.